Si je résume très rapidement, fait le tour des questions qui ont été soulevées pendant cette table ronde, c'est déjà que c'est un beau sujet de travail, ce mot a été dit, un beau sujet de travail qui s'intéresse parfois à des questions de détails, mais le diable est dans les détails, souvent, à l'école maternelle. Et justement, ces questions, elles nécessitent de convaincre. On a bien entendu le terme de convaincre, et donc de développer des arguments qui soient enrichis. Enrichis aussi par les travaux de recherche, mais se pose la question de l'appropriabilité, si j'ose dire, si je me permets ce néologisme, de ces éléments de recherche en termes de formation. Quelles sont les actions et quels sont les modèles et modalités de travail du formateur pour à la fois convaincre mais surtout faire évoluer les pratiques, puisque qui dit qualité dit aussi compétences professionnelles. On ne part pas de rien puisque des actions sont déjà menées, il y a une grande richesse à l'école maternelle qu'on ne peut dénier. Cependant, il reste encore de nombreux sujets à travailler, qu'il s'agisse du partenariat, donc de l'intermétier, mais aussi des questions telles que l'évaluation, de la place et de la relation des femmes, la place et de la relation avec les familles, de la question des enfants issus de milieux défavorisés et de ce qu'ils ont comme bagage au point de départ, dont on peut prendre, que l'on peut prendre en compte ou avec lequel on doit faire avec. Donc toutes ces questions ont été posées, mais je vous invite vous également à soulever peut-être d'autres leviers, d'autres limites par rapport à ce que vous avez entendu et par rapport à votre vécu, naturellement, en contexte.
Didier Cricot, chargé de mission petite enfance à l'ESP de l'Académie de Lyon. Dans vos interventions, vous avez à plusieurs reprises utilisé le terme de progressivité dans un sens qui est lié à l'organisation des enseignements. Je voudrais soulever peut-être une autre exception de la progressivité, celle de la progressivité de la formation et la formation des futurs enseignants. Madame Bouisse, dans le rapport que vous avez co-rédigé en 2011, c'est presque une clé de lecture qu'on peut avoir de ce rapport avec le terme de progressivité. Mais on voit bien aussi que l'école maternelle ne reprendra pied dans cette progressivité que si l'ensemble des acteurs qui contribuent à former les futurs enseignants et les enseignants en exercice se mettent une bonne fois pour toutes d'accord. Alors c'est pas si simple que ça, c'est complexe, il y a beaucoup de contradictions en ce moment dans les processus en cours, mais moi je voudrais vraiment insister sur le fait que nous n'y arriverons que si nous arrivons à constituer un véritable processus, lui aussi, de formation qui part des tout débuts dans les ESP avec les étudiants pour aller jusqu'aux enseignants actuellement en exercice. Et si nous nous mettons d'accord également sur les étapes qui vont permettre de répondre aux bonnes questions au bon moment. Les questions et les réponses qu'on peut apporter à des enseignants débutants sont pas les mêmes que celles qu'on peut apporter à des enseignants expérimentés ou à des étudiants qui découvrent les premiers pas de les premiers aspects du métier. Alors c'est compliqué, j'ai l'impression qu'il y a une évolution dans l'air, c'est un peu lent. Mais j'espère qu'avec l'ensemble des personnes qui sont ici et les collègues des équipes de circonscription notamment, de nouvelles relations arriveront à se reconstituer de manière à ce qu'on rétablisse une sorte de continuum. Sinon, je ne vois pas vraiment comment nos étudiants, futurs enseignants, continueront de nous trouver crédibles quand nous leur tenons des discours ou quand nous leur donnons des conseils qui correspondent tout à fait à ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais qu'ils découvrent sur leur lieu de stage des réalités qui contredisent complètement nos propos.
Merci. Alors, Josette Demizard, je suis inspectrice chargée de mission maternelle dans le Val-de-Marne. Et si j'ai bien entendu, Madame l'inspectrice générale, qu'au niveau national, l'offre n'avait pas forcément rencontré la demande, c'est pas le cas dans mon département. Dans mon département, la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Et il est un point qu'on n'a pas évoqué, enfin, ou peut-être de manière un peu implicite ce matin, c'est la question du recrutement des enfants lorsque la demande est plus importante que l'offre. Et un deuxième point qui est la conséquence du premier, qui est que lorsqu'on a un peu ciblé effectivement les enfants qui, comme le dit la circulaire, sont très éloignés de la culture scolaire, se pose un deuxième problème, qui est celui que Madame Genex évoquait aussi tout à l'heure, de l'homogénéité des difficultés. Et pour visiter, faire le tour des 22 classes que nous avons ouvertes dans le département du Val-de-Marne à la rentrée, dans les endroits où effectivement on a bien réussi à cibler les enfants les plus éloignés de la culture scolaire, je vois la détresse des enseignants qui me demandent comment travailler avec une population aussi homogène dans la difficulté sociale. Et voilà, je voudrais bien échanger avec les collègues qui rencontrent les mêmes problématiques.
À la première, je ne sais pas si ce sont des éléments de réponse, mais à la première intervention, je ne peux qu'être d'accord, pleinement d'accord. Le chantier est immense. Mais bon, vous savez ce que dit Sénèque, hein, c'est pas parce que c'est difficile que nous n'y arrivons pas, etc., etc. Ce qui m'inquiète, c'est quand je mets cela en relation avec ce que disait Madame Piguet et que je trouve très juste, hein, la réception des discours de changement par les équipes pédagogiques, voire par les équipes de circonscription. J'en suis très consciente. C'est pour cela d'ailleurs que j'accepte beaucoup d'interventions en département, mais ça ne va pas durer. Parce que je pense qu'il faut, qu'on cède, il faut qu'on soit plusieurs là-dessus. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'école maternelle quand il s'agit de dire qu'au fond, c'est l'institution qui a provoqué ces choses qui ne vont pas. Tout le monde est d'accord pour dire il faut moins de circulaires sur l'évaluation, il faut moins d'injonctions sur ceci, sur cela. Une fois qu'on a provoqué cette sorte de réjouissance et qu'on tente de reconstruire, alors là,
qu'est-ce qu'on en fait ?
C'est toujours un peu en tension. C'est toujours un peu en tension, mais je crois qu'il faut qu'on soit assez lucide que sur le fait que ce qui est demandé comme alternative est difficile. C'est beaucoup plus difficile de produire l'école maternelle que nous voudrions voir produite que de donner des fiches. C'est beaucoup plus difficile de s'organiser pour parler avec tous les enfants tous les jours que de conduire cette pédagogie du questionnement et des questions-réponses telle qu'on la voit fleurir dans les classes aujourd'hui. On est parfaitement conscient de ça, hein. On est parfaitement conscient que c'est un gros programme de formation qu'il faudrait et un gros accord de tous les formateurs. Pour travailler avec des débutants, puisque j'ai un tout, j'allais dire un pied un peu dans une ESPE, mais petit, hein. Mais en tout cas, je rencontre des jeunes en formation. Je suis particulièrement intéressée par le questionnement que produit le stage filé en école maternelle. Les prises de conscience extrêmement rapides de ces jeunes, quand on leur a donné quelques grilles de lecture, quelques éléments d'information, etc., voir comment ça peut prendre et les questions très intéressantes qu'ils ou qu'elles posent, mais qui renvoient inévitablement à ce que vous avez dit, c'est-à-dire le heurt avec ce qui est déjà en place. Si l'on pouvait capitaliser sur cette intelligence, ce questionnement et soutenir ces jeunes dans les années qui viennent, surtout s'ils sont en maternelle, ce serait bien. Parce que y a du ferment là, hein, y a du ferment chez certains, mais c'est sûr que c'est un gros chantier devant nous. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, c'est vrai que l'arrivée très prochaine de nouveaux programmes va nous permettre de relancer ça. et va nourrir finalement ces formations qui sont nécessaires. Associé au programme, il y a la question de l'évaluation. Je ne doute pas que ce soit un gros sujet. Je pense aussi qu'il va falloir qu'institutionnellement des choses soient clarifiées là-dessus. On va s'y employer. Pour répondre peut-être brièvement à la question de Madame Denizard, oui, c'est vrai, j'ai pas parlé tout à l'heure dans le bilan que l'on a fait de ces questions de quand la demande est forte, comment fait-on? Ou même si la demande n'est pas très forte, mais qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place, comment fait-on pour arbitrer entre toutes les demandes? Ça fait partie des sujets sur lesquels les collègues qui enquêtent vont approfondir pour voir s'il y a d'autres solutions que celles qu'ils ont vues en première approche. Bon, ce que l'on a vu là, en première approche, ce sont majoritairement des situations où on a donné priorité aux enfants les plus âgés, si je puis dire, quand il y avait plus de demandes que de places. Majoritairement, c'est cela. Mais, dans certaines communes, on a mis en place des commissions de régulation ça porte des noms différents, un petit peu à la manière de ce qui se fait pour les crèches, de telle façon qu'il y ait autour de la table des contributeurs à la décision qui puissent avoir des positions différentes, avec des représentants de l'éducation nationale, des représentants des services sociaux, des représentants des parents. Je crois qu'il ne faut pas qu'ils aient l'impression que les choix se construisent contre certains d'entre eux. Il faut les associer à cela. Mais on a vu des choses quand même assez construites de ce point de vue-là. Dans les communes où on a vraiment voulu favoriser finalement l'accès à l'école de ceux qui en auraient le plus besoin, mais en donnant des arguments les plus solides et les plus objectifs possibles. C'est compliqué parce que on va dans ces commissions-là vers une argumentation qui touche à des explications qui n'ont pas à être diffusées, quoi, sur lesquelles il faut de la discrétion professionnelle de tous ceux qui seront là. Donc c'est un paradoxe que de vouloir le faire de manière ouverte et en même temps de préserver cette discrétion professionnelle, mais je pense que c'est important. Sur le dernier aspect, je ne sais pas, mais peut-être que et dans les ateliers, on pourrait aborder cette question-là, quid de l'homogénéité des difficultés? Je pense que oui, c'est la grande question. C'est la grande question, que ce soit pour les moins de 3 ans, d'ailleurs, ou pour les 3 ans en première scolarisation.
Pour toute l'école.
C'est un vrai problème qui n'a pas que des réponses, à mon avis, didactiques et pédagogiques. C'est là que le fait d'être au moins 2 adultes, le fait d'avoir des effectifs bien contrôlés, etc., a beaucoup d'importance. Mais je pense qu'on peut avoir des réponses et on devrait avoir quelques-unes en tout début d'après-midi, en tout cas, je l'espère.
Moi, je veux bien dire un mot parce que ce que vous avez soulevé, Madame Denizard, c'est un sujet de grande préoccupation pour les collectivités locales. Parce que je rappelle que les inscriptions scolaires et la sectorisation, c'est une compétence municipale. Et donc, moi, je me suis aperçue d'une chose que j'ignorais avant de travailler dans les communes. Les gens, ils vont voir les élus pour tout, mais même des choses folles. Je trouve que l'enfant, la maîtresse de mon petit, elle a une méthode de lecture qui me plaît pas. Je prends rendez-vous avec l'élu du secteur. Moi, j'ai été surprise, aussi bien à Montreuil qu'à Istres, que quand les gens, ils ont l'impression qu'ils sont assez pleins à l'école, ils vont voir à la mairie. Alors, quand ils tombent sur moi, c'est bien, parce que comme je viens de l'éducation, je sais mettre à distance et dire que l'intérieur de ce qui se passe en classe, etc., c'est pas du domaine de l'école, mais je veux pas que mon enfant aille avec cet enseignant. J'écris au maire. Je prends rendez-vous avec le maire. Donc, ce sont des choses qui deviennent assez pénibles. Hein. Vous savez bien qu'il y en a qui écrivent directement au ministre et après, ça vous retombe dans les circonscriptions. Donc, la question de savoir comment on peut répondre à des demandes, elle est très difficile et elle fait peur aux élus à juste titre. Parce que c'est très délicat. Évidemment, un élu préfère dire oui à tout le monde. Ben, vous pensez, c'est tellement plus gratifiant. Vous voulez quelque chose, madame ? Ben, tenez, c'est oui. Et quand il faut aller dire non, c'est beaucoup plus difficile. Donc, en fait, la question des commissions d'attribution, elle est complexe. D'abord, on n'a pas étalé la vie privée, comme le disait Viviane Bouys, des familles sur la place publique. Et se dire que il suffit d'être dans une réunion pour déclarer la confidence et de déclarer la confidentialité pour qu'elle soit respectée, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous y avons tous été confrontés. Et après, moi, la question de l'homogénéité du regroupement, de l'homogénéité des difficultés sociales, hein, puisque on va pas dire scolaires, puisque les enfants sont pas encore rentrés à l'école, moi, elle me pose vraiment beaucoup de questions. Voilà. Il me semble qu'aujourd'hui, les villes qui se sont posées la question d'avoir dans leur crèche des critères qui permettent aux familles notamment monoparentales ou les plus en difficulté, hein, on peut être une famille monoparentale sans être en difficulté, mais il se trouve que beaucoup d'entre elles sont en difficulté, c'est pas pour faire des crèches où on les met tous ensemble. C'est trouver des moyens d'avoir des quotas, des critères, etc. Alors, la circulaire, moi, que je trouve une mi-révolution potentielle dans l'éducation nationale, hein, la scolarisation à 2 ans, admettre que c'est pas dramatique si on n'arrive pas tous ensemble à la même heure exactement, qu'on ferme pas les portes à 9h parce que c'est l'heure de l'école et il s'est réveillé un peu plus tard, tu travailles pas, ben non, c'est trop tard, t'as raté l'heure à l'école, c'est carré, l'obligation d'avoir un projet commun et tout, je trouve qu'il y a des trucs extrêmement favorables et en même temps extrêmement exigeants. Mais moi, je crois qu'il faut être attentif au lieu d'implantation de ces structures, quand on peut, dans les villes, on n'est peut-être pas obligé de mettre la classe des 2 ans, même si on sait que le secteur de recrutement, il va être plus dans une cité qui est plus difficile. Peut-être qu'on peut essayer de se poser la question du lieu d'implantation si les questions des transports n'est pas trop dissuasive. Je vais faire une analogie. Est-ce que vous avez remarqué que les classes de SECPA, elles sont quasiment tout le temps dans les collèges de ZEP ? C'est un peu pareil pour les ULIS, hein, parfois. Enfin, mais moi, je rêverais qu'on mette une SECPA dans un collège favorisé. Ça serait bien pour tout le monde. Mais il y a cette habitude-là qui fait que parfois, moi j'ai vu dans les collèges en Seine-Saint-Denis, alors le collège, il est déjà difficile. Il y a déjà les gens qui n'ont pas envie d'y envoyer leur gamin. Et en plus, boum, on met la SECPA, où on va dire ça va encore créer des problèmes parce que les enfants, ils ne sont pas si faciles que ça. Donc moi, je pense que la question du lieu d'implantation de cette école, elle est à discuter autant que possible avec les collectivités locales, parce qu'on peut changer le regard, même si la population retenue, c'est une population potentiellement plus difficile ou plus éloignée des codes de l'école, mais si on la met dans une école qui concentre déjà pas toutes les difficultés, c'est peut-être une piste, quand on peut, ce qui n'est pas toujours le cas.
Sans tirer sur votre temps de pause, hein, mais bien vous dire que les questions qu'on a posées concernant la formation, l'accompagnement, Madame Bouys sait que je cite pas son propos juste par révérence pour sa fonction, mais on sait très bien que c'est très compliqué et on passe beaucoup de temps à accompagner des équipes de circo sur comment on construit de la formation, y compris hybride, comme disait Marie.
On sait bien que c'est quand même quelque chose qui interroge fortement nos métiers. Comment est-ce qu'on fait pour passer du transmissif? Voilà, j'ai le diaporama de Madame Buys qui dit tout comme il faudrait faire correctement. Et est-ce que l'imposition de ce diaporama va arriver à transmuter les consciences, hein. Oui. Très clairement, oui pour partie.
C'est pour ça que ça va s'arrêter.
Mais vous savez très bien que ces questions de l'accompagnement, elles posent question au métier de l'accompagnement. Et l'intermétier, il est nécessaire à construire là-dessus. Et encore une fois, comme ça vous a été déjà deux ou trois fois dit, n'hésitez pas à être dans ces questions concrètes. Mmh. Mais nous, dans nos métiers, quand on essaye de faire ça, voilà ce qu'on a comme difficulté, voilà ce qu'on peut avoir comme outil, voilà ce qui nous aide à développer entre les métiers de l'accompagnement, les métiers des différentes formations et les métiers des différents professionnels, ce qui aide à développer ces espaces de confiance qui font que les gens acceptent de questionner leur professionnalité pour oser faire ce qu'ils n'arrivent pas encore à faire. Dites-vous bien que dans un lieu comme on est aujourd'hui, on est là pour aussi parler de ces choses-là, et que les gens qui peuvent vous expliquer ce qu'il faudrait que vous fassiez en tant que formateur, certes, ils ont des idées, mais c'est surtout à vos problèmes professionnels, à vous, qu'il faut que nous nous intéressions.
Oui. Il est midi et quart. Il y a encore une demande de questions, puis Isabelle Barbet, puis je crois qu'on arrêtera après. Hein, et puis il nous reste une journée et demie. Il y a longtemps cet après-midi d'atelier où vraiment il y aura possibilité de débattre. Voilà, Madame Mélanie.
Oui, bonjour Christine Mélanie, projet éducatif de la ville de Lyon. Je voulais interroger, bonjour Didier, Madame Piguet, par rapport au vademécum pour les maires, est-ce qu'il a été construit aussi en partenariat avec les collectivités? Et puis derrière, j'aimerais aussi qu'on se pose un peu la question des, enfin, vous l'avez posé, la question justement des rythmes, voilà, est-ce que vous avez des préconisations toutes les quatre? Est-ce qu'il y a des choses qui se font sur l'accueil de l'enfant, pas de l'élève, hein, de l'enfant en maternelle en lien avec cette question des rythmes?
Alors concernant le vademécum, nous avons bien sûr, en tout cas au niveau de la ville de Besançon, retenu un certain nombre de préoccupations, de possibles et de pas possibles. Mais l'idée de ce vademécum, c'est plutôt au regard de la circulaire, c'est de faire des propositions aux élus et aux collectivités qui voudraient aménager des espaces. Et c'est plutôt un vademécum, j'ai envie de dire, de préconisations et surtout de conseils. Hein. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est rédigé en partenariat, c'est plutôt le souhaitable et l'attendu en termes de conditions d'accueil et de personnel bien sûr. Et concernant les rythmes scolaires, alors bien sûr nous réfléchissons à ce que va impliquer et induire ce passage aux 9 demi-journées. Nous réfléchissons aussi, même si, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le temps où les IEN préconisaient et ne voyaient pas d'autres possibilités que la fréquentation pour les tout-petits à l'école l'après-midi, hein, vous voyez le changement que ça suppose, c'est presque révolutionnaire. Mais en tout cas, on voit bien que la mise en place des rythmes va quasiment écarter les tout-petits de l'école l'après-midi, puisque majoritairement les écoles vont terminer, j'imagine, à 15h45. 16h, donc compte tenu du temps de sieste, il restera un temps d'école très court. Donc nous sommes plutôt en train de réfléchir à comment vont s'organiser d'un point de vue éducatif et pédagogique la répartition de ces temps-là sur 5 matinées. La question, elle est plutôt là. L'autre question qui se pose, et c'est très compliqué selon les zones géographiques, c'est l'accueil des petits de 2 ans à la restauration scolaire. Ça, c'est une vraie question. A-t-on du personnel? Les locaux sont-ils appropriés? Et il y a la plus-value qu'on imagine par rapport à cette scolarisation. Et après, il y a nos limites de terrain. C'est aussi quand, alors c'est pas des réponses que je vous apporte, hein, c'est des questions là plutôt. Ces petits-là, comment est-ce qu'ils peuvent être pris en charge à la sieste tout de suite après le repas? Donc c'est à ces questions-là qu'on réfléchit, qu'on va tenter alors d'apporter pas des solutions. Nous n'avons pas les solutions. En tout cas, on essaie de réfléchir aux aménagements possibles en fonction du contexte. Je crois que je le dirai comme ça parce que nous n'avons pas de solution unique, mais on essaie de voir avec les équipes et avec les élus qui, je dois le dire, sont majoritairement vont dans notre sens. Après, avec leur, voilà.
Bonjour, donc Isabelle Bordet, je travaille au CAREP de l'Académie de Caen. Donc je travaille au CAREP de l'Académie de Caen et donc je suis entre autres impliquée dans la formation autour des moins de 3 ans. Il y avait deux questions, enfin une remarque et une question. Il se trouve que je suis aussi impliquée dans les plus de maîtres de classe et on a dans la circulaire des plus de maîtres de classe une implication rectorale qui permet d'avoir justement la nécessité d'impliquer le recteur et de dépasser l'échelon des départements. Nous n'avons pas la même chose sur les moins de 3 ans. Ce qui, voilà, juste une remarque pour dire que du coup la question de la prise en charge académique des moins de 3 ans est plus compliquée à construire. Moi j'interviens à l'échelon académique, est plus compliquée aussi à construire en termes d'avoir des arguments pour expliquer à quel point c'est important l'accueil des moins de 3 ans. Voilà, donc c'était juste une remarque de cet ordre-là. Puis la deuxième chose, j'aurais plein de choses à dire, mais une chose particulière, on travaille, nous, peut-être c'est spécifique, majoritairement les dispositifs qui ont été mis en place, on a 3 intervenants. On a des éducatrices jeunes enfants, en général, des ATSEM, et sur les 9 qui sont mis en place sur le département du Calvados, 6 ont intégré des EJE, des ATSEM et des enseignants. C'est aussi dû à une historique de classe passerelle sur la ville de Caen qui du coup a donné un peu le là, je dirais, de la mise en place globale sur le département. Et moi j'aimerais discuter avec le collectif ici sur la question de la formation aussi avec les EJE qui posent d'autres questions que la formation des ATSEM sur lequel on aurait déjà un peu des recherches parce que on a la chance d'avoir Thierry Vasse à l'éducation à Caen, donc voilà, on en a profité largement, mais voilà, sur les ATSEM on a déjà des recherches diverses et variées sur la question de la collaboration. Évidemment il y a peu, effectivement, donc peu de terrain de recherche, mais la collaboration EJE enseignant ATSEM, on s'est pris nous des revers en formation en ayant essayé des outils comme le travail entre pairs à l'amont pour que la parole de chacun soit respectée, etc., en utilisant d'autres outils que j'ai pu utiliser moi en formation avec des parents en particulier. Et pour autant, travailler avec les EJE, c'est compliqué parce qu'effectivement, la question de... Autant les ATSEM sont un public qui, effectivement, sont très ouverts en formation, pas simple, mais on peut très vite trouver des outils de formation. Avec les EJE, ben, on n'a pas l'ascendant qu'on a sur les ATSEM. Donc, accepter la parole de l'éducation nationale, qui dit qui dit quoi, et en même temps, les collègues qui bossent avec des EJE disent que c'est une plus-value extraordinaire, en particulier quand on a des enfants de milieux très défavorisés. Il y a une écoute de l'enfant, justement, et de la globalité de l'enfant, que nous, on n'a pas forcément... Voilà. Donc, ça pose des tas de questions passionnantes que j'aimerais bien discuter.
Moi, je sais qu'il y avait eu une expérience à Lyon.
Ah, pardonnez-moi. Oui, Chantal, qui fait ça, je crois, qu'à me demander. Puis je crois qu'après, on a vraiment une journée et demie, il faut vraiment s'arrêter. Parce que le travail aussi cet après-midi et demain, et que le temps de déjeuner n'est pas extensible. Ni rétrécissable autant qu'on voudrait. Je laisse répondre Chantal, et puis tu es là cet après-midi.
Pour vous dire que les intervenantes ici présentes, pour la plupart, elles restent avec nous. Donc elles nous feront le plaisir de passer dans les différents ateliers. Et donc à ce moment-là, un nouvel échange pourra prendre place. Donc ne vous inquiétez pas, elles sont captives.
Merci de me laisser quelques minutes supplémentaires, parce que moi, je ne pourrai pas être avec vous pendant les ateliers. Effectivement, si le chantier est énorme, moi, j'insisterai pour dire que les enjeux sont énormes. Des enjeux énormes, parce que la période de 2-3 ans est une période essentielle dans le développement. Développement symbolique, développement du langage, de la mémoire, de la théorie de l'esprit, du corps, de la propreté, de l'autonomisation. Je ne veux pas en rajouter, mais c'est vrai que je sens quelques inquiétudes de par les politiques. Moi, je vais en quand même rajouter aussi quelque chose d'essentiel du côté de la psychologie de l'enfant. Il se passe des étapes majeures dans le développement, et effectivement, je crois qu'une formation à ce niveau-là est plus que nécessaire. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la question de l'homogénéité scandaleuse. La question, c'est de se poser la question pourquoi ? Pourquoi les parents vont sans cesse quémander auprès des mairies. Ils veulent des écoles adéquates pour que leurs enfants soient compétitifs. Le terme n'a pas été employé. Quand on voit les parents détourner la question de l'institution scolaire, c'est bien pour que leurs enfants soient dans la meilleure école possible, pour qu'ils soient les meilleurs possibles et qu'ils soient les plus compétitifs possibles. Et donc, moi, je voudrais simplement rajouter un petit bémol en vous disant, attention, parce que si vous accédez à ce genre de demande dans les scolarisations précoces entre 2 et 3 ans, vous allez gaver ces petits qui n'ont pas besoin d'être gavés, qui ont besoin d'être nourris sainement, et certainement pas d'être gavés par pression parentale. Donc je crois que ça nécessite un important travail. On le voit dans les structures d'accueil de la petite enfance, où les parents arrivent en disant « qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ?» Vous ne pouvez pas répondre « rien », parce que le « rien » est impossible à entendre du côté parental. Et au niveau des structures scolaires, ça sera encore plus difficile de faire accepter que l'enfant n'a eu que une demi-heure d'activité sur les 2 heures de présence. Autrement dit, je crois que c'est vraiment important que la question de l'accélération, qui est souvent mise dans les mouvements philosophiques, on accélère, on fait une scolarisation précoce à 2 ans, on va nourrir ces petits de plus en plus tôt. Non, nous n'aurons pas des meilleurs résultats scolaires en ayant cette attitude-là. Et la deuxième chose que je voulais dire, et je termine là-dessus, j'avoue été choqué par un propos que vous avez énoncé sur la question du bien-être, la question de l'école du bien-être. Comment peut-on encore penser qu'un niveau en CP va baisser parce qu'on est dans une école du bien-être? Je dois dire que les bras m'en tombent un petit peu. C'est vrai que de penser que certains collègues puissent dire qu'un enfant qui serait dans un environnement tranquille, où il puisse s'épanouir, comment peut-on mettre ça avec des niveaux scolaires en baisse? Je crois qu'il faut vraiment, au contraire, soutenir que plus l'école sera un lieu où l'enfant se sentira mieux, plus on aura des niveaux scolaires qui monteront et qui augmenteront de façon notable.
Simplement, deux mots. Cette expression école du bien-être, peut-être il faudrait la resituer dans un contexte historique qui est tout à fait récent. Il y a une période où l'école maternelle a été critiquée comme étant l'école du bien-être au détriment du bien apprendre. Hein. Et peut-être que je ne l'ai pas suffisamment.
Non, c'est pas parce que c'est la querelle. Non, apprentissage est terrible.
Je veux aussi faire preuve d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de tous et de mes collègues absents.